l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Millau 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Rose Jankovic qui n'est pas en studio mais qui est du côté de Tarbes. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
De Tarbes, il en sera justement question dans un instant puisqu'on va vous retrouver avec l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Pas mal d'événements à noter dans les prochains jours.
Oui, effectivement. Des temps de prière, des cafés pour les grands-parents, du cinéma et même une soirée pour cogiter sur les questions bioéthiques. Il y a tout ça au programme cette semaine.
Voilà le programme de l'agenda à suivre. Et puis on va vous retrouver direction Garaison.
Oui, puisque au sanctuaire Notre-Dame de Garaison, le recteur et son équipe ont lancé une séquence de restauration de tableaux qui avaient été réalisés entre le 17e et le 19e siècle, des tableaux qui ont beaucoup souffert au fil du temps. Et voilà, ils ont entrepris donc de restaurer 15 tableaux en tout. 3 d'entre eux sont déjà restaurés, vous pouvez déjà les voir. Le père Pascal Garçon nous dit tout cela dans quelques minutes, après l'agenda.
Exactement, et au programme de cette émission également, on parlera emploi.
On parlera plus précisément du maintien de l'emploi, puisque cette question-là a fait l'objet d'une signature de convention entre l'ASMT des Hautes-Pyrénées et France Travail. Je suis allée à la rencontre des partenaires et des acteurs de cette convention. Ils nous expliqueront pourquoi c'était nécessaire de signer une telle convention de partenariat pour maintenir l'emploi.
Dans un instant, c'est l'actualité régionale avec les titres, et de l'actualité, il en sera également en question avec votre interview dans quelques minutes.
Oui, figurez-vous Gilles que si vous attendez une lettre aujourd'hui, vous allez pouvoir l'attendre longtemps puisque les postiers des Hautes-Pyrénées, les facteurs, c'est-à-dire le pan de distribution de la poste, les facteurs sont en grève dans les Hautes-Pyrénées, une grève qui pourrait peut-être s'étendre dans les autres départements de la région. Si vous attendez une lettre, passez plutôt un coup de fil.
Très bien, merci pour cette information. Justement de l'actualité, il y en a une question avec Sacha Boudet-Poplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Il est avec nous pour les titres qui seront développés à midi et demi.
À Toulouse, des milliers de moustiques mâles stériles vont être relâchés dans plusieurs quartiers pour lutter contre la prolifération du moustique tigre grâce à une méthode innovante et respectueuse de la biodiversité. En Ariège, un incendie dans un champ a détruit un hectare de chaume et une machine agricole avant l'intervention rapide des pompiers. Retour à la normale près de Villefranche-de-Rouergue après une free party rassemblant environ 200 participants ce week-end. La nouvelle croix du pic de Lanneteau a été arrachée quelques jours seulement après son installation. Les responsables dénoncent un acte de vandalisme. Un double anniversaire est célébré autour du mythique Solex avec plusieurs rassemblements et animations organisées dans toute l'Occitanie dédiées au célèbre cyclomoteur français. Puis pour finir à Roland-Garros, le Toulousain Hugo Gaston a créé l'exploit en éliminant Gaël Monfils. Après plus de 4 heures de match, il affrontera désormais l'Argentin Francisco Cerundolo au prochain tour.
Merci Sacha, vous découpliez, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Ces titres seront développés dans moins d'une demi-heure à 12h30 dans le journal régional. À tout à l'heure.
Présence.
Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. L'agenda dans les diocèses, c'est tous les jours sur Radio Présence. Aujourd'hui, on s'arrête dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec en duplex depuis Tarbes, Androse Jankovic. Rebonjour Androse.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous.
On débute cet agenda avec cette soirée qui est proposée le 28 mai à Lourdes sur le dérèglement bioéthique.
Jeudi 28 mai, effectivement, cette soirée bioéthique proposée et organisée par la paroisse du Pays de Lourdes en partenariat avec la fondation Jérôme Lejeune. Tout un programme à partir de 18h. D'abord, vous êtes invité à participer à la messe en l'église paroissiale de Lourdes. Et puis, il y aura un temps de prière et d'adoration pour la vie de 18h30 à 19h30. Et à partir de 20h30, dans les salles paroissiales Saint-Pierre, ça se trouve rue Barthaïrès à Lourdes, et bien là, il s'agira de davantage cogiter et échanger sur ce thème, le dérèglement bioéthique. Il y aura d'abord le visionnage d'un documentaire qui nous donneront des repères pour agir, un documentaire inédit d'une trentaine de minutes environ, suivi d'une conférence de Lucie Pachery. Elle est responsable plaidoyer France de la Fondation Jérôme Lejeune. Et après avoir visionné ce documentaire, eh bien, vous pourrez échanger, poser des questions. L'objectif étant de se poser et de réfléchir ensemble sur ces questions de bioéthique, l'euthanasie, l'eugénisme, la PMA, le tri embryonnaire, la GPA et j'en passe. Donc il y a vraiment urgence à s'intéresser à ces questions de bioéthique. C'est ouvert à tous, n'hésitez pas à en parler autour de vous et rendez-vous donc à 18h30 en l'église paroissiale pour la messe ou bien à 20h30, salle paroissiale rue Barthaïrès à Lourdes, ce jeudi 28 mai pour cogiter sur le dérèglement bioéthique.
On poursuit avec cette initiative proposition des jeunes étudiants et pros. Ils vont partir à Lisieux cet été. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette proposition?
Oui, alors plus exactement, ce sont les jeunes étudiants et les jeunes professionnels de l'aumônerie de Tarbes qui ont entre 18 et 35 ans, qui partent en pèlerinage du 26 juillet au 1er août. Ils vont aller au Mont-Saint-Michel et à Lisieux. Alors, ils sont tout un groupe. Le groupe est déjà structuré et ils ont eu une sacrément bonne idée. C'est de proposer à tous les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes, eh bien, d'emporter les lettres que chacun peut faire pour dire ses joies, ses peines, ses intentions de prière. Et confier tout cela à Sainte Thérèse de Lisieux. Le principe est simple. Vous écrivez votre lettre. Vous la déposez dans la boîte aux lettres qui est prévue à cet effet dans la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes d'ici le 20 juillet. Et ces jeunes, iront sur la tombe de Sainte Thérèse déposer vos lettres. Donc c'est un moyen, d'être associé à ce pèlerinage des jeunes étudiants et des jeunes professionnels qui proposent donc de relayer nos prières, quelles qu'elles soient, nos prières ou nos actions de grâce d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à écrire une lettre à Sainte Thérèse de Lisieux et cette lettre sera bien déposée sur sa tombe par les jeunes de notre diocèse.
On poursuit avec maintenant la communauté des frères franciscains qui nous invite à voir un film, c'est demain soir, mercredi.
Exactement, la communauté des frères du couvent Saint-Maximilien Kolb à Lourdes qui nous propose de voir le film Maximilien Kolb, une vie donnée. Ça se passe au cinéma Majestique à Lourdes demain, mercredi 27 mai à 20h30. Il y aura avant le visionnage de ce film une petite introduction du frère Benoît Cousin. C'est ouvert à tous, n'hésitez pas à venir en groupe, en famille, entre amis, pour visionner ce film Maximilien Kolb, une vie donnée au cinéma Majestique demain 20h30 à Lourdes.
On poursuit avec Mgr Michael, évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, qui sera en visite à Tarbes au sein de l'établissement Jeanne d'Arc. C'est après-demain, jeudi.
Exactement, ce jeudi 28 mai, Mgr Mika rencontrera d'abord les élèves de l'école primaire de cette école, de ce groupe scolaire Jeanne d'Arc. Et puis ensuite, il célébrera la messe à midi en la chapelle de l'établissement du lycée Jeanne d'Arc. Et ensuite, il déjeunera avec l'équipe de direction avant de rencontrer les collégiens en tout début d'après-midi, les collégiens qui sont membres de l'aumônerie à Jeanne d'Arc. Voilà pour cette visite authentique pour tous les élèves et puis les équipes éducatives de l'établissement Jeanne d'Arc.
Voilà, c'est ce jeudi. On poursuit avec cette proposition à Lourdes, ça va se passer samedi, c'est un café parents et grands-parents.
Et si on s'offrait une parenthèse pour réfléchir à notre rôle d'adulte? Voilà l'idée lancée par le centre Assomption à Lourdes, ça concerne les parents et les grands-parents. Alors c'est très simple et très sympa, il s'agit de prendre un café et de discuter. Donc rendez-vous samedi 30 mai à 10h au centre Assomption, c'est au 21 avenue Antoine Béguer à Lourdes. L'idée, c'est de semer nos petites intentions et renforcer les liens entre nous. Bon, se donner des conseils aussi, hein, et puis si on a envie de pleurer un bon coup, on pleure un bon coup, et puis les autres nous consolent et nous donnent des bonnes raisons de repartir avec le sourire. C'est la bonne idée du centre Assomption pour voir pour voir avec toute la voilà tout, avec beauté notre rôle d'adulte, voilà, parents et grands-parents. Café pour vous, c'est un rendez-vous qui a lieu désormais une fois par mois au Centre Assomption, et donc ce prochain rendez-vous c'est ce samedi 30 mai à 10h.
Voilà, on peut prendre un café samedi ou un grand bol d'air et de fraîcheur, puisqu'on pourra aller à Payol avec ce temps de prière qui est organisé, cette proposition, et qui est organisée ce samedi 30 mai.
Quelle belle transition.
Oui, oui, j'avais réfléchi depuis un moment. Hein.
Effectivement, et ce rendez-vous de prière, je tiens vraiment à en parler aujourd'hui, parce que le 30 mai, ce sera vraiment la fin du mois de Marie, mais c'est pas une nouveauté dans ce territoire de la paroisse de Notre-Dame du Haut-Adour, c'est toute la paroisse du pays de Bagnères-de-Bigorre. Payol, c'est tout au fond, après la vallée de Campan, avant de monter en direction du col d'Aspin pour rejoindre la vallée d'Or et du Louron. À Payol, il y a une petite chapelle, la chapelle Saint-Joseph, et vous avez rendez-vous effectivement ce 30 mai à 18h pour prier le chapelet. C'est une invitation des équipes du Rosaire avec la communauté chrétienne locale, et cette invitation, elle a lieu assez régulièrement à chaque fois dans une chapelle ou une église différente de ce territoire. C'est une initiative qui avait été lancée durant l'année jubilaire, de prier, de se retrouver pour prier le rosaire régulièrement. Et bien après l'année jubilaire, les chrétiens ont décidé de continuer parce que c'est tellement bien de prier ensemble. Et à chaque fois dans un lieu particulier de notre patrimoine religieux. Donc ce rendez-vous cette semaine, c'est le 30 mai à la chapelle, la toute petite chapelle Saint-Joseph à Payol. C'est pas loin du lac. Si vous avez chaud, vous pourrez après le rosaire vous tremper les pieds ou faire une partie de pêche.
Voilà, ben, le programme est établi. Merci Anne-Rose. Autre proposition toujours samedi, proposition différente, c'est une soirée louange Raisen.
Oui, tout à fait, comme chaque mois, nous sommes invités à une soirée louange en l'église Saint-Vincent de Paul à Tarbes à 20h30, c'est dans le quartier Lobadère, soirée louange Raisen, ça a lieu donc ce mois-ci, le samedi 30 mai, pour finir en beauté le mois de mai.
Voilà un aperçu de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, cette actualité et cet agenda, on la retrouve sur le site internet et également sur votre application Au Clocher.
Exactement, et dans le bulletin diocésain.
Voilà, merci Anne-Rose Jankovic. Vous restez avec nous puisqu'on part du côté de Garaison.
Oui, Garaison, où depuis quelques mois, le sanctuaire s'est lancé dans un chantier de restauration de 15 tableaux qui sont des portraits ou des ex-voto réalisés entre le 17e et le 19e siècle. Alors, dans quel état était-il? Pourquoi entreprendre ces travaux? Le recteur des lieux, le père Pascal Garçon, répond à mes questions tout de suite, dans quelques secondes.
Présence dans le Lauragais, 97.9.
Bonjour Père Pascal Garçon.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison et aujourd'hui je viens à votre rencontre pour parler de peintures, des peintures qui datent du 17e, qui ont été réalisées entre le 17e et le 20e siècle, des peintures qui avaient besoin d'un petit coup de restauration, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous avez décidé, Père Pascal Garçon, eh bien, de vous retrousser les manches. Alors, c'est pas vous qui avez restauré ces peintures, mais il y a toute une histoire précisément à nous raconter. D'abord, est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces peintures, nous dire ce qu'elles racontent?
Alors, bonjour à tous les auditeurs. D'abord, ces peintures ne sont pas les peintures des voûtes et du narthex que tout le monde, tous les visiteurs de Garaison connaissent, puisque elles n'ont pas besoin d'être restaurées. Elles l'ont été en 1970. Mais il s'agit d'un ensemble de portraits et d'ex-voto qui ont été pendant un temps soit dans la chapelle et qui sont retrouvés au grenier, abîmés par le temps, ou qui étaient dans une galerie qui représentait un petit peu les fondateurs et les supérieurs généraux de la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception de Garaison.
Qu'on appelait communément les pères de Garaison autrefois.
Les pères de Garaison, voilà. Et donc, par un concours de circonstances, on a d'abord restauré un tableau qui était vraiment très, très, très abîmé. Et de là, on est passé à un deuxième tableau, puis à un troisième tableau. Et donc, on cherche à restaurer tous ces tableaux qui ont souffert du soleil et puis du temps qui est passé. Donc, ils avaient besoin vraiment d'une restauration.
Il y en a combien des tableaux?
Il doit y en avoir une quinzaine.
Voilà, donc là, vous en êtes au début. Alors, quand vous dites qu'ils étaient très abîmés, ça veut dire quoi? Ils étaient dans quel état? Il y avait des taches, des trous, des couleurs un peu fades. Ça veut dire quoi, des tableaux abîmés?
Alors, le premier tableau qu'on a restauré, c'est un ex-voto dont on faisait mention dans un livre sur Garaison, que j'ai recherché, que je n'ai pas trouvé d'abord dans la chapelle, mais que j'ai retrouvé dans le grenier. Et c'était vraiment une vieille croûte, comme on dit, qui était trouée, sale, très sale. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la jette à la benne? Ou est-ce que je l'ai gardé pendant 3 ans, 4 ans dans mon bureau jusqu'au jour où j'ai rencontré un visiteur qui était aussi restaurateur, conservateur de tableaux et qui m'a conseillé dans la restauration de ce tableau. Alors, pour vous dire vraiment qu'il était très, très, très abîmé. Les autres tableaux ont souffert, donc ils ont des champignons, ils ont des craquelures, la toile s'est détendue avec la chaleur, donc ils ont vraiment besoin de, et même des tableaux qui étaient à l'origine carrés, qu'on retrouve rectangles ou même ovales, ont beaucoup souffert de ceux qui ont voulu restaurer les tableaux au cours du 17e, 18e, 19e siècle, au goût de l'époque, si on veut.
Tous ces tableaux, ils peuvent être restaurés, il n'y en a aucun qui est dans un état tel que la restauration est impossible ou qu'elle ne vaut pas la peine ?
Alors, les plus abîmés, notre restaurateur a dit, oui, avec le temps et avec aussi... vous voyez, il y a un des tableaux, il a fallu 120 heures quand même de restauration de ce tableau. Donc, vraiment, beaucoup de travail et... à la première vue, ce tableau n'était pas si abîmé que cela pour un œil non connaisseur. Donc, pour les tableaux vraiment très abîmés, il y a par exemple les restes 4 stations d'un chemin de croix qui avait été peint au 19e siècle par un certain Justin Pibou. Il y a 2 de ces stations qui sont vraiment très abîmées, mais qui ne sont pas inespérées pour la restauration. C'est comme de la chirurgie, on peut faire confiance aux spécialistes.
Alors pour le moment, les 3 tableaux restaurés et puis ceux qui ne le sont pas encore, ils sont où? Est-ce qu'on peut les voir?
Alors bien sûr, nous sommes heureux de les présenter à tous ceux qui viennent à Garaison. Ils sont dans la galerie au-dessus des arcades de ce bâtiment historique du 17e. Et ils sont accrochés. Et autour d'eux, nous avons mis une notice explicative de ce portrait, ainsi qu'un ensemble d'objets qui rappellent un petit peu l'histoire de Garaison accompagnant ces portraits.
Pourquoi pour vous c'était important de faire restaurer ces portraits après tout, puisqu'ils étaient abîmés et que personne ne savait qu'ils étaient au grenier ou que personne ne les réclamait? Vous auriez pu vous dire, écoute, on se passe de cette dépense.
Oui, c'est sûr qu'on pourrait se passer de cette dépense, mais c'est aussi la mémoire. Et si nous, à notre petit niveau, on ne fait pas ce qui est à notre mesure pour sauver ce qui vient du passé, pour l'offrir aux nouvelles générations, et de voir qu'à travers ces tableaux, il y a toute une histoire, l'histoire du sanctuaire, l'accueil, la consécration du sanctuaire. Je crois que c'est toute une vie. Et quand on s'y plonge, petit à petit, on a envie de faire partager cette passion de ce lieu assez unique et qui nous prend complètement.
Vous avez dit qu'il y a un des tableaux qui avait nécessité 120 heures de travail. Ça a un coût. Comment vous financez ces travaux de restauration et puis comment vous allez étaler ça dans le temps? Est-ce que vous vous êtes donné un délai pour pouvoir restaurer la totalité de tous ces tableaux?
Alors, bien sûr, le financement vient en grande partie des visiteurs qui viennent à Garaison. Nous avons un petit accueil magasin qui permet de faire un peu de bénéfice, et donc nous avons bloqué une grosse somme d'argent pour la restauration de cette année en 2026 de 5 tableaux. Mais nous voudrions après faire une pause parce que nous voudrions installer des grandes tentures pour protéger du soleil et de la chaleur ces tableaux, parce que c'est bien beau de les restaurer, mais si on ne protège pas l'environnement où ils sont, ils risquent très vite de souffrir du soleil. Et puis
donc leur préparer un cocon.
Voilà. On aimerait bien que les fresques du sanctuaire suivent aussi le même chemin, mais là, ça dépend vraiment du patrimoine et des monuments historiques. Et là, ça ne dépend pas de nous. On n'a pas accès à cela.
Voilà, donc ces peintures qui datent donc du 17e jusqu'au 20e siècle que on peut voir à Garaison, celles qui sont déjà restaurées, celles qui ne le sont pas encore mais qui le seront. Tout cela est exposé donc dans la galerie que l'on peut visiter. Alors ce sont des visites guidées, sur demande. Il faut s'adresser au magasin. C'est possible tous les jours, Père Pascal ?
C'est possible tous les jours, tous les après-midi de 14h30 à 18h.
Merci beaucoup, Père Pascal Garçon. À bientôt, donc ici au sanctuaire de Garaison, dont vous êtes le recteur.
Merci à vous et bonne journée.
Voilà, peinture à ne pas manquer donc à Garaison. Garaison, c'est donc dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci aussi donc à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé cet entretien. Anne-Rose qui reste avec nous. On la retrouve dans un instant.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne. 97.9.
On a passé du temps à chercher dans nos vies. Un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris.
Fallait qu'on se protège. qu'on nous a dit, mais est-ce qu'on a réussi? On s'est déjà tous égarés sur le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui nous tende la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser.
Si on avance ensemble,
il fallait qu'on se rassemble. Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous. On a tous pris des coups, mais on tient debout. Hey. On construira le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira le monde de demain. À nous de changer le décor. Sans peur, on est bien plus fort, plus fort.
On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit de naître dans un monde où certains ont faim et froid. Il faudra qu'on soit des milliers à ne jamais oublier que le chemin est long.
Avant de faire pour de bon,
on nous dira croire. Et si l'on n'y croit pas, dis-moi qui le fera.
On construira le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira le monde de demain. À nous de changer les décors. Sans peur, on est bien plus fort.
On sait comment faire.
Faut détruire les barrières.
Ne plus jamais se taire.
Si on le fait ensemble,
on sait comment faire.
Faut détruire les barrières.
Et qu'est-ce qu'on sera fier.
Et on construira nous
le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira le monde de demain. À nous de changer les décors, sans peur on est bien plus fort. Et on construira le monde de demain.
Le monde de demain, dans Présence Midi, à 12h30, c'est le journal régional, le journal de la mi-journée. Mais pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic.
Présence à Aurignac, 94.1.
Les postiers, ou plus exactement les facteurs, c'est-à-dire les salariés du pan distribution de la Poste, sont en grève dans les Hautes-Pyrénées. Leur piquet de grève est établi au centre de tri de la zone Bastillac à Tarbes. En cette matinée du 26 mai, ils étaient environ 90 facteurs grévistes venus de tout le département des Hautes-Pyrénées, rassemblés ici en attendant d'être reçus et entendus par leur direction. C'est là que je me suis rendue et que j'ai tendu le micro à l'un d'entre eux, facteur à Bagnères-de-Bigorre, un facteur qui ne fera donc pas sa tournée aujourd'hui. Il nous explique les raisons pour lesquelles ils sont en grève et ce qu'ils attendent.
Alors la journée de travail type, donc on commence ce matin vers 8h. Il y a une partie de tri, donc on réceptionne le courrier et les colis, on trie. Et vers 10h, généralement, on part en tournée. Et donc on a à peu près 4h30, 5h de distribution.
Pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui?
Parce que depuis un certain temps, les conditions de travail se détériorent et surtout là, on n'arrive plus à rendre le service pour lequel on est payé. C'est-à-dire qu'on est obligé de ramener du courrier, on est obligé de ramener des colis et de la presse.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi les conditions de travail se détériorent alors qu'on entend qu'il y a de moins en moins de courriers, parce que maintenant avec les voies numériques, les outils numériques et plein d'autres moyens d'acheminement du courrier, finalement, il y a moins de lettres, il y a moins de colis qui s'acheminent vers la poste. Alors, comment se fait-il que vos conditions de travail se détériorent?
Alors, je vais vous prendre un exemple assez facile à comprendre. En 2000, sur la poste de Bagnères, on était 35 tournées de distribution. Aujourd'hui, il en reste 16 et il était prévu par la Poste qu'il n'en reste plus que 12 au mois de juin. Donc en fait, les effectifs ont été divisés par 3. Le trafic, effectivement, lettre a baissé, on le reconnaît. Le trafic colis, par contre, a très fortement augmenté. Donc on a un secteur où le numérique apporte beaucoup de distribution de colis sur le secteur de Bagnères, notamment.
Voilà, donc le numérique n'a pas remplacé, mais a simplement modifié votre travail, c'est ça que vous dites.
Voilà, il a transformé le travail, et après avec une urgence sur le colis, puisqu'aujourd'hui, on le sait très bien, la livraison du colis, elle est primordiale dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter un colis 4 jours après qu'il était posté.
C'est-à-dire que vous sentez que ça, c'est une pression au quotidien dans votre tournée, vous sentez sous pression avec cette livraison des colis.
Ah, c'est absolument ça, c'est-à-dire qu'on a une pression permanente, on a un temps pour faire une tournée, on a des délais à respecter et on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc la direction nous demande de prioriser. Et c'est à nous de faire le choix de dire ben, tel colis je ne le distribue pas ou telle presse je ne le distribue pas.
Alors sur quels critères ?
Il n'y en a pas de critères en fait. Enfin si, allez, le seul critère qu'ils nous donnent en fait c'est la rentabilité. Par exemple sur un colis, on va nous dire que le colis Amazon est prioritaire sur un colis de particulier à particulier. Puisque Amazon est un gros marché et que donc forcément ça rapporte beaucoup d'argent à la poste.
Votre tournée type, donc qui dure 5 heures, hein, c'est ça, chaque jour à peu près. Vous avez combien de foyers dans lesquels il faut s'arrêter pour livrer le courrier? Et en moyenne, enfin, je ne sais pas si vous pouvez donner un chiffre, mais peut-être une estimation, en moyenne, c'est combien de colis par jour?
Alors, la tournée, à peu près, c'est 750 foyers à distribuer. C'est du rural, donc il y a 70 km.
Ah, vous êtes en rural, oui. Donc en voiture.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, c'est important de le dire aussi.
Oui, absolument. Donc c'est 70 km, 750 foyers et à peu près 50 à 60 colis. Plus bien sûr tout ce qu'il faut amener à côté, donc la presse et le courrier.
Donc pour un colis, alors ça, on rentre un peu dans la logistique, ça veut dire qu'il faut descendre de la voiture, sonner, rencontrer la personne, vous ne déposez pas forcément le colis. Non. Donc c'est pour comprendre pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça prend du temps et pourquoi vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre tournée.
Alors il y a des colis qu'on peut mettre dans les boîtes aux lettres sans aucune difficulté, donc ça va prendre un temps réduit. Et après il y a le colis sur présentation, donc soit parce qu'il ne rentre pas dans la boîte aux lettres, soit parce qu'il faut une signature. Et là, bien sûr, il y a la démarche de descendre, de sonner, d'attendre, de faire une livraison correcte. Et là, ça prend beaucoup plus de temps, puisque bon, vous avez des gens qui ne sont pas forcément disponibles. Si on doit les appeler au téléphone, ça prend un peu plus de temps. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que ça peut prendre beaucoup de temps.
Vous, qu'est-ce que vous réclamez à la direction si vous êtes en grève aujourd'hui? C'est que vous attendez des mesures très concrètes. Vous me dites 16 au lieu de 35 auparavant comme facteur. Là, on parle vraiment de la distribution pour le bureau de poste de Bagnères. Ça veut dire quoi? Que vous voudriez revenir à un chiffre plus élevé dans vos équipes?
Après, nous, on voit par rapport au travail qu'on fait actuellement. Donc, on ne se projette pas, nous, sur dans 2 ans ou dans 3 ans. On voit le travail qu'on a aujourd'hui. On estime qu'en passant de 16 à 12, ça sera impossible à réaliser tous les jours. Donc on était plutôt sur une proposition où on peut accepter des choses comme de la productivité ou une baisse de trafic qui ferait qu'éventuellement on supprime des emplois, mais certainement pas à cette hauteur. Donc nous on avait fait une contre-proposition qui était de partir sur une base à 15 tournées au lieu de 16 et de voir sur le temps, sur les 2 ans, si on pouvait descendre à 14 ou si c'était pas réaliste.
Une organisation plus réaliste réclamée par ce facteur de Bagnères de Bigorre. La grève aujourd'hui est à l'échelle du département des Hautes-Pyrénées, mais des représentants des syndicats me disaient en aparté que cette grève pourrait bien s'étendre aux autres départements de la région dans les jours à venir.
Voilà pour cette grève dans les Hautes-Pyrénées. Merci Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant pour la suite de ce Présence Midi. Mais pour le moment, c'est Sacha Boudet-Bouplier qui est avec nous pour ce qu'est à la mi-journée, quasiment à 12h30. On le retrouve pour le journal régional.
Bonjour à tous. À la une de ce début de semaine à Toulouse, la ville va expérimenter une méthode innovante pour lutter contre le moustique tigre. Des milliers de moustiques mâles stériles vont être relâchés dans certains quartiers afin de limiter la reproduction de l'espèce. Cette technique, déjà testée dans d'autres régions, consiste à empêcher les femelles de pondre des œufs viables après l'accouplement. Les autorités espèrent ainsi réduire progressivement la population de moustiques sans utiliser d'insecticides. Une expérimentation présentée comme plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. En Ariège, un incendie s'est déclaré samedi dans un champ de chaume. Le feu a détruit environ 1 hectare de végétation ainsi qu'une machine agricole avant l'intervention rapide des pompiers. Les secours ont réussi à éviter la propagation des flammes vers d'autres parcelles malgré des conditions sèches et venteuses. Aucun blessé n'est pour l'instant à déplorer. Retour au calme près de Villefranche de Rouergue après l'organisation d'une free party ce week-end. Environ 200 participants se sont réunis sur un terrain isolé pour une fête non déclarée. Les forces de l'ordre sont intervenues afin d'encadrer l'événement et sécuriser les lieux. Aucun incendie majeur n'a été signalé et les participants ont quitté les lieux progressivement dans la journée de dimanche. Dans les Pyrénées, la nouvelle croix installée récemment au sommet du pic de l'Anneto a été arrachée et jetée dans le vide. L'œuvre venait tout juste d'être remplacée par un paysagiste de Montauban après plusieurs années de dégradation. Les responsables dénoncent un acte volontaire et malveillant contre ce symbole emblématique du plus haut sommet des Pyrénées. Les passionnés de Solex ont rendez-vous pour un double anniversaire autour du mythique cyclomoteur français. Collectionneurs et amateurs célèbrent à la fois l'histoire de cette machine emblématique et plusieurs décennies de rassemblements dédiés au Solex. Des expositions, démonstrations et balades sont prévues tout au long du week-end dans l'ensemble de l'Occitanie, dans une ambiance rétro et conviviale. Et puis enfin, à Roland-Garros, énorme performance du Toulousain Hugo Gaston face à Gaël Monfils lors du premier tour. Le joueur français de 25 ans, 118e mondial, a éliminé l'ancien numéro 6 mondial au terme d'un véritable marathon de plus de 4 heures de jeu. Hugo Gaston avait pourtant pris un départ idéal en remportant les deux premiers sets grâce à un jeu patient, très solide en défense et ponctué de superbes coups droits de gaucher. Mais poussé par le public du court, Philippe Chartier, Gaël Monfils, est revenu dans la partie en remportant le 3e et 4e set grâce à davantage de variété dans son jeu. Finalement, Hugo Gaston a totalement dominé le dernier set. Très ému après la rencontre, le Toulousain a salué son adversaire en rappelant qu'il avait fait, je cite, « beaucoup pour le sport ». Hugo Gaston affrontera désormais l'Argentin Francisco Creundo au prochain tour. Et vous entendez justement Hugo Gaston dès maintenant sur notre antenne à la suite de son match dans des propos recueillis par Valérie Poirier.
Et je m'en souviendrai, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est un match très spécial, très particulier à aborder et aussi à jouer. On a eu du mal à trouver notre meilleur niveau de jeu en même temps. Mais voilà, content de m'en être sorti, content d'avoir pu bien, on va dire, me gérer la façon dont j'ai joué. Donc c'est cool, évidemment, elle va être très haute en termes de victoire. Mais voilà, encore une fois, c'est un premier tour. J'espère aller le plus loin possible. Maintenant, je vais me reposer, récupérer, penser un petit peu au double, aussi célébrer, entre guillemets, et puis c'est reparti pour le deuxième tour.
Oui, bien sûr, j'ai entendu, ils m'ont pas lâché. Un moment qui a été compliqué, ils ont toujours été là, ils ont toujours donné de la voix, de la force.
C'était le Toulousain Hugo Gaston à l'antenne de Radio Présence.
Et merci à Sacha Boudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info sur notre antenne. C'est dans moins d'une demi-heure avec la rédaction française de Radio Vatican pour toute l'actualité nationale et internationale.
Présence à Toulouse, 97.9.
Et la suite de ce magazine, c'est avec vous, Anne-Rose Jankovic. On parle maintenant maintien de l'emploi.
Chaque année en France, des milliers de salariés se retrouvent en risque de désinsertion professionnelle à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'un handicap. Et pourtant, il est possible de maintenir leur emploi à condition de mettre en place un bon accompagnement au moment opportun. Ce maintien de l'emploi est possible et souvent il est même préférable pour le salarié comme pour l'entreprise. C'est en tout cas la conviction de l'ASMT 65 et France Travail qui ont décidé de formaliser une convention de partenariat pour marquer une nouvelle étape dans la coordination des acteurs du territoire. Le 22 mai dernier, dans les locaux de France Travail à Tarbes, l'ASMT 65 et France Travail ont donc signé cette convention qui entrera en vigueur le 1er juin. C'est une première à l'échelle nationale. Alors pourquoi était-ce nécessaire de signer une telle convention? Qu'est-ce que cela apporte de plus dans l'accompagnement des salariés en désinsertion professionnelle? Élément de réponse avec Pascal Godeby, président de l'ASMT 65, et Olivier Palmieri, médecin du travail, coordinateur et responsable de la cellule maintien-emploi à l'ASMT 65.
Alors, en préambule, après je vais laisser la parole au docteur Palmieri, cette convention était nécessaire parce qu'au niveau des chefs d'entreprise, aujourd'hui, il y a des entreprises et des salariés qui sont dans les entreprises qui peuvent avoir des soucis de maintien en emploi suite à un accident ou une maladie. Souvent, les chefs d'entreprise sont démunis, ne sait pas qui aller voir, comment faire, etc. Donc, on a voulu réunir les quatre acteurs du département pour justement bien flécher, bien cibler et prévenir les entreprises qu'on est prêt on est là pour vous aider en cas de problème pour le suivi des carrières professionnelles et en cas de maladie ou d'accident. Voilà, Olivier peut compléter sur la technique, les détails.
Là, donc, quand on parle de maintien emploi, on parle du maintien de l'emploi pour des personnes qui travaillaient de manière tout à fait normale et qui, au cours de leur parcours professionnel, tout d'un coup, ne peuvent plus continuer à travailler dans les conditions habituelles. C'est bien cela, hein ?
C'est ça. En fait, pour revenir sur votre question, pourquoi on en vient à signer une convention plus spécifiquement avec France Travail actuellement, c'est parce qu'on c'est un travail qu'on a mis en place depuis maintenant à peu près 3 ans. On essaye d'avancer sur ce sujet, ouais. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'un médecin va prononcer une inaptitude pour raison médicale, souvent les personnes, entre le moment où l'inaptitude est prononcée et où on arrive sur un licenciement, les personnes sont perdues.
Une inaptitude, ça conduit pas forcément à un licenciement.
Tout à fait. Une inaptitude, c'est juste le médecin qui va constater que l'état de santé d'une personne n'est plus compatible avec son poste de travail actuel.
Donc ça peut continuer, mais ça ne peut pas continuer dans les mêmes conditions.
Exactement. Donc notre rôle en premier, c'est d'essayer de trouver d'autres solutions. On aménage le poste, on apporte un certain nombre de recommandations et de conseils à l'employeur pour essayer d'aménager le poste, sauf que ça a des limites et que parfois l'aménagement n'est pas possible. Donc l'étape d'après, on cherche un reclassement. Dans un premier temps, un reclassement au sein de la même entreprise, pareil, hein, dans les échanges qu'on a avec l'employeur, et sinon après, un reclassement dans une autre entreprise. Et si tout ça n'aboutit pas, on en arrive à l'inaptitude, et à partir du moment où on a mis en place cette inaptitude et que tous les leviers ont été déjà actionnés au niveau de l'entreprise et qu'on ne peut plus rien faire, effectivement, ça débouche après sur un licenciement pour inaptitude.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut chiffrer d'abord le nombre de personnes qui sont concernées ici dans les Hautes-Pyrénées, et puis d'où vient cette inaptitude ? Est-ce qu'elle a été provoquée, créée par les conditions de travail, ou bien ce sont des conditions ou des situations ou des événements extérieurs au travail, ou un peu des deux ?
Les deux, en fait. On a tous des problèmes de santé, indépendamment du travail. Alors il y a effectivement des situations où c'est le travail qui va déclencher ou aggraver des problèmes de santé, mais après il y a des situations où il y a également des problèmes de santé indépendamment du poste qui pourront faire qu'on ne peut plus rester sur son poste de travail. Il y a le vieillissement de la population. Dans le département des Hautes-Pyrénées, on a une population assez âgée par rapport à la moyenne nationale, hein, on a une population plus âgée, et donc en fait tous ces éléments-là font qu'au bout d'un moment, les problèmes de santé font qu'on ne peut plus rester sur son poste.
On sait là aujourd'hui, mi-mai 2026, combien de personnes dans les Hautes-Pyrénées sont concernées par ce besoin de maintenir leur emploi ?
Alors si je me base sur les chiffres que j'ai au niveau de la SMT, alors ça sera sur les 70 000 salariés de la SMT, c'est pas l'ensemble du département, parce qu'il y a d'autres structures qui prennent en charge la santé au travail que nous, mais nous par exemple les médecins du travail, ils font ce qu'on appelle des aménagements de poste ou des recommandations d'aménagement de poste, à peu près 4 000 ou 5 000 par an. Par rapport à l'échelle nationale, on est dans la moyenne en fait, hein, donc on fait parmi ces recommandations, donc en fait quand on donne un avis à un employeur sur une situation professionnelle, donc il va y en avoir à peu près, à la louche, à peu près 20% qui vont déboucher sur un aménagement, et un petit pourcentage, à peu près un peu moins de 2%, où on va aller directement vers l'inaptitude. Donc dans les Hautes-Pyrénées, pour la SMT, ça représente à peu près 600 salariés. Et c'est pour ces 600 salariés qu'on avait besoin de renforcer notre coopération avec France Travail. Parce qu'une fois qu'on a fait l'inaptitude, la personne elle est là, avec son problème de santé, elle a perdu son emploi, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc on se retrouve derrière après avec un conseiller France Travail. Le conseiller France Travail n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, nous on prépare. Alors, toujours avec l'accord de la personne, hein. Si elle n'est pas d'accord, c'est entre les mains de la personne concernée. Si elle refuse d'aborder ses problèmes, forcément, elle ne va pas le faire. Donc, et une fois que l'idée, c'est qu'effectivement, quand elle arrive devant le conseiller France Travail, elle soit armée pour préparer et rebondir sur un autre emploi.
Finalement, cette convention, elle vous permet de faire ensemble ce que chacun de vous faisait jusqu'à présent, un peu chacun de son côté, avec peut-être pas l'ensemble des outils pour mener l'action jusqu'au bout.
Oui, complètement. C'est compléter, cumuler les compétences, ouais, de chacun pour servir le salarié. Puisque nous, comme vient de le dire le docteur Palmieri, en aucun cas on peut reclasser des gens derrière ou leur trouver du travail. Mmh. On peut les accompagner jusqu'à un certain point. Donc là, chacun fait son parcours et ça fait le parcours complet pour le salarié touché.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans les Hautes-Pyrénées, oui, c'est possible pour toutes ces personnes qui sont dans cette situation de difficulté au travail, de maintenir leur emploi ou de quitter leur emploi, mais d'en trouver un autre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avenir professionnel qui peut être assuré pour chaque cas de figure ?
Alors oui, en tout cas, on fait tout pour ça. Ouais. Il y aura forcément un cas, on n'a pas de boule de cristal. Mais bien sûr, on fait justement la démarche aujourd'hui, la signature avec France Travail, c'est justement dans ce but-là. C'est qu'il y en ait le moins possible. Si possible, zéro. Mmh. Si on peut y arriver, bien sûr, on aura gagné. Mais voilà, on fait le maximum, en tout cas on se bat pour ça.
Est-ce que cette convention, elle a été suscitée par une demande, un appel au secours des entreprises ou plutôt des salariés qui sont dans ces difficultés ou ben, c'est vous qui êtes sur le terrain qui avez senti, c'est un petit peu tout?
Une vraie prise de conscience des quatre intervenants d'aujourd'hui, chacun dans leur domaine, en voyant un petit peu où on est bon, où on n'est pas bon. Oui. On ne peut pas être bon partout, c'est pas possible. Et on sait où on pêche, et là on se réunit, on discute et on met en place. Alors ça a pris un petit peu de temps, mais ça y est, c'est fait, c'est en place, l'outil existe dans le département. Au service, je le répète, des entreprises pour les salariés aussi.
Et c'est une nouveauté en France, d'après ce que j'ai compris, cette convention-là, c'est une première en France dans les Hautes-Pyrénées.
Tout à fait, la convention avec France Travail, c'est une première signature entre un service santé au travail et France Travail pour sécuriser le parcours d'une personne en difficulté par rapport à ses problèmes de santé.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu des entreprises parce que du coup, on les évoque, mais pour peut-être déculpabiliser les chefs d'entreprise, c'est pas forcément toujours facile ou toujours possible pour un chef d'entreprise eh bien, d'adapter un poste. Dans ces entreprises, il y a des petites ou voire des toutes petites entreprises. Quel message vous voulez faire passer à ces chefs d'entreprise pour bien leur dire vous êtes là pour les aider, mais il ne s'agit pas de les faire culpabiliser. Parfois, ils n'ont pas eux-mêmes les outils.
C'est une excellente question. Alors, c'est très simple. Justement, c'est le travail aussi au niveau de la SMT. Ouais. Quand on décèle ce genre de soucis, et qu'on explique aux chefs d'entreprise qu'il y a des aménagements à faire, et si il n'a pas les moyens, par exemple, c'était dans le sens de votre question, ouais. on est là pour lui monter aussi les dossiers d'aide. C'est-à-dire que les équipes de la SMT, on a des équipes pluridisciplinaires qui sont à même d'accompagner le chef d'entreprise, y compris dans le montage des dossiers, pour justement obtenir des aides pour aménager son poste. Voilà. On est là pour lui aider. On connaît, nous, toutes les équipes pluridisciplinaires connaissent parfaitement le chemin. Et le chef d'entreprise, lui, il a la tête dans le guidon. Oui. La conjoncture actuelle fait qu'il ne va pas savoir à qui j'appelle qui, je fais comment. Moi, je suis chef d'entreprise. Demain, il m'arrive ça. Alors moi, forcément, je prends un bon exemple, mais je fais comment? Et bien là, avec son médecin du travail, les équipes, on est là pour ça. On n'est pas seulement là pour la fameuse visite médicale. Bien au contraire. Oui. C'est la prévention, c'est les aider, leur donner, leur dire voilà, il y a des solutions et voilà comment on obtient ces solutions. Oui. Donc, on ne laisse personne de côté.
Dernière question sur les difficultés de se maintenir au travail. On connaît toutes les difficultés d'ordre plutôt physique ou physiologique, le mal de dos, etc. Mais vous disiez, avant de signer cette convention, vous présentiez aussi tous les mots MAUX qu'on ne voit pas, qui sont plus d'ordre psychologique ou psychosociaux. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vraiment parler. Vous avez peut-être des chiffres. Il y a vraiment un problème croissant sur ces questions-là.
Alors oui, c'est une réalité. La tendance, bon, pour vous donner l'exemple sur les inaptitudes, historiquement, les inaptitudes, c'était tout ce qui était trouble articulaire. Ça fait à peu près 5-6 ans maintenant, et ça a démarré même avant la période Covid. C'est maintenant, en fait, il y a un croisement des courbes, et ce sont les problèmes de santé mentale qui sont maintenant en premier sur les causes d'inaptitude.
Et qui ne se voient pas forcément.
Et qui ne se voient pas forcément. Et si vous discutez avec les médecins du travail, ou même n'importe quel médecin, ils vont vous dire que dans les consultations actuellement, il y a de plus en plus de problématiques de santé mentale qui ressortent, en fait. Et donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible, mais d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent maintenir leur poste de travail et le maintenir dans l'emploi.
Qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure, pour sensibiliser alors à la fois les salariés, les chefs d'entreprise et puis le grand public à ce travail que vous lancez ensemble et pour que peut-être il y ait plus d'attention à l'égard de ces personnes qui ont du mal à se maintenir au travail, qui ont envie de travailler mais pour lesquelles c'est vraiment difficile.
Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le message qu'on doit passer c'est de dire aux chefs d'entreprise, votre service de prévention de santé au travail est à votre disposition. Ça fait partie de votre cotisation. La cotisation est obligatoire, c'est dans le code du travail, c'est comme ça, mais ce n'est pas seulement la visite, c'est tous ces services justement. Donc quand il y a un doute, alors non seulement nos équipes font les visites régulières et peuvent déceler, mais en plus le chef d'entreprise peut nous appeler à tout moment. Le salarié aussi peut aussi nous appeler. Il faut que tout le monde soit d'accord, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le message, c'est n'hésitez pas à revenir vers votre médecin du travail. Tout le monde a sa petite affiche dans les entreprises, hein, le chef d'entreprise, il sait qu'il doit appeler s'il y a un souci. Et bien n'hésitez pas, à la SMT, on est là pour ça, on est au service des entreprises. C'est 74 salariés au service des entreprises du département.
C'était donc Pascal Godeby, président de la SMT 65, et Olivier Palermi, médecin du travail, coordinateur et responsable de la cellule maintien-emploi à la SMT 65. À noter enfin que la signature de cette convention s'inscrit dans la continuité des conventions qui sont déjà engagées avec Cap Emploi 65 et la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées.
Merci Anne-Rose Jankovic, très belle journée.
Belle journée à vous aussi Gilles, il fait beau.
Il faut en profiter. Exactement. On se retrouvera évidemment demain sur notre antenne. Belle journée à vous.
Présence aux portes du Tarn.
97.9.
Comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au retour, tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir de la toile de Nîmes, qu'entre nous y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps y a des roses et jardins faits.
À Sévrac-le-Château, 102.3. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Il est écrivain, cartographe, peintre. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à Franz Schrader avec Laurent de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Laurent.
Et bonjour Gilles.
Dans un instant, on va découvrir un peu mieux François Schrader avec une exposition qui lui est consacrée à Lourdes. Mais auparavant, on va revenir un peu en arrière avec son enfance. Alors, on dit François Schrader, mais c'est pas son vrai prénom.
Non, exactement. Donc aujourd'hui, on met le cap sur le 19e siècle avec un personnage fascinant. Donc Franz Schrader, de son vrai prénom Jean-Daniel François. Donc c'est un homme en fait qui est né à Bordeaux en 1844. C'était un fils d'immigrés allemands. Et voilà, donc il a commencé à vivre en fait dans le quartier des Chartrons. Donc pour ceux qui connaissent Bordeaux, avant d'être un quartier huppé, les Chartrons, c'était la zone de Bordeaux où vivaient tous les non-bordelais et surtout les étrangers. Voilà, donc de façon assez naturelle, c'est là que ses parents s'étaient installés. Et alors c'est quelqu'un qui effectivement va être assez autodidacte, enfin il va étudier mais il va être aussi autodidacte, et il va nourrir une passion en fait énorme pour les Pyrénées, et il va être un homme en fait aux multiples talents. Donc c'est en ça aussi qu'il est passionnant, parce qu'il a fait beaucoup de choses.
Alors pourquoi s'intéresse-t-il aux Pyrénées ?
Bah parce qu'après ses études à Bordeaux, à 22 ans en fait, lors d'un séjour chez des amis à Pau, il va découvrir en fait, depuis Pau, il va voir ces montagnes, les Pyrénées, et ça va vraiment l'attirer, le passionner, et ça va l'amener à aller explorer cette partie qu'il connaît pas et qui l'attire beaucoup. Et de ce fait, il va effectivement, comme vous l'avez dit, il va devenir en fait explorateur, quelque part un peu alpiniste, randonneur, cartographe, parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise bien, qu'il connaît. Géographe, et ensuite il va peindre, il va aussi écrire sur les Pyrénées. Voilà, il aura beaucoup de développement autour de la montagne.
Il est même inventeur, puisqu'il a inventé un appareil.
Exactement, donc il a inventé un appareil qui s'appelle l'orographe. Ça lui permettait, dans ses sorties, donc c'était un matériel assez léger qui lui permettait de pouvoir, en visant en fait le relief, remettre à plat par écrit en fait ce qu'il pouvait voir, et donc de cartographier les Pyrénées. Et un de ses travaux les plus reconnus en cartographie, c'était la cartographie de toute la partie du massif du Mont Perdu, où il a en fait fait quelque chose de on va dire d'avant-première, ça n'avait jamais été fait, et de très très détaillé. Donc ça lui a valu beaucoup de retours et d'éloges sur le travail qui avait été fait.
Et puisqu'on parle de Gavarnie, il y a même un mausolée à l'entrée de Gavarnie.
Exactement, on retrouve sa trace à l'entrée de Gavarnie, où un mausolée est là pour l'honorer. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des grands pyrénéistes, et certain qu'il a été attiré énormément par cette montagne. Il a beaucoup lu sur ce que ses contemporains avaient pu écrire. Il est parti avec des guides de randonnée aussi en expédition, donc côté français, côté espagnol. Donc il a vraiment parcouru un maximum de la chaîne donc des Pyrénées. Il y a même en fait aujourd'hui un pic qui lui est dédié, côté espagnol en fait, dans le massif du Batchimal en fait, dans la province de Huesca. Et donc c'est un pic qui culmine à 3176 mètres de hauteur qu'il a ascensionné, et donc il s'appelle le pic Schrader. Voilà.
Je rappelle qu'avec vous, on parle donc de ce pyrénéiste Franz Schrader. Vous avez même relevé certaines citations qu'on peut peut-être donner.
Oui, Franz Schrader, il a dit beaucoup de choses, il a beaucoup écrit sur les Pyrénées, mais par exemple, il disait effectivement que la montagne, c'était le lieu où la nature enseigne à l'homme sa propre démesure. Voilà.
Déjà, à la fin du 18e siècle, il alertait les gens sur le surtourisme, entre guillemets.
Oui, alors j'ai pas pris de citation précise, mais c'est vrai qu'à l'époque, il s'inquiétait un peu de ça, parce que il trouvait en fait que il explorait, il allait randonner, et il trouvait que voilà, on commençait à avoir des touristes arriver, et il commençait à dire que finalement ce qu'il trouvait là-haut, qui était plutôt du calme, de la tranquillité, de la préservation, commençait à être un peu dégradé par l'afflux de ces gens qui venaient de plus en plus visiter, voir. Il s'inquiétait de l'impact que ça aurait sur les montagnes pyrénéennes. Voilà. Donc c'était une avant-première aussi sur l'écologie.
On parlait de Franz Schrader sur notre antenne parce qu'actuellement il y a une exposition qui lui est consacrée. Cette exposition, c'est à Lourdes.
Exactement, c'est au château fort musée pyrénéen de Lourdes. Donc il y a une donation qui a été faite au château, donc de très très nombreuses pièces en fait qui ont été données par son arrière-petit-fils. Et donc l'exposition en ce moment donc qui a lieu, qui s'appelle Franz Schrader, la montagne sublimée. On va y retrouver beaucoup d'éléments sur sa vie, des choses qui lui appartenaient, donc des carnets de notes, des cartes, des aquarelles, des médailles, parce qu'il a été aussi récompensé à l'Expo universelle de Paris et à d'autres occasions, des croquis, et puis bien sûr ces peintures, ces aquarelles, donc ça c'est assez fabuleux à voir. C'est quelqu'un, enfin là on peut pas résumer toute sa vie et son œuvre, mais c'est quelqu'un qui vraiment a un parcours passionnant. Donc j'invite les auditeurs à aller un peu découvrir qui était Franz Schrader. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce qu'il a pu faire. Malheureusement, il y a pas de legs vraiment, parce que comme c'était un autodidacte en fait, et qu'il était assez pointu dans ce qu'il faisait, il a pas embarqué en fait d'élèves ou de disciples, même s'il s'est intéressé aussi à la pédagogie, hein, qu'il a aussi enseigné, qu'il a aussi travaillé pour les éditions Hachette. Enfin, il a eu tout un volet pédagogique dans sa carrière, mais finalement il y a eu peu de disciples ou de gens qui l'ont suivi, et son travail était tellement pointu que peut-être qu'il a pas assez vulgarisé en fait. Voilà, donc bon, ça reste un peu en l'état, mais ça mérite d'être regardé et d'être exploré.
Voilà, cette exposition, on peut l'avoir donc au château fort de Lourdes, vous l'avez dit, au musée Pyrénéen. Elle est visible jusqu'à quand?
Jusqu'au 3 mai 2026, et on pourra y voir notamment dans les pièces le fameux orographe qui, lui, outre l'exposition, est régulièrement visible au musée du château fort pyrénéen de Lourdes.
Voilà, exposition Franz Schrader à ne pas manquer donc à Lourdes. Un grand merci Laurent de l'Office de Tourisme, et à très vite pour une nouvelle chronique balade en Pays de Lourdes. À bientôt.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur.
Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs.
Jasmin,
jasmin,
lilas,
lilas.
C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles.
Qu'écoutait en rêvant la petite fille au tourne-disque folle.
Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain.
Mais demain, c'est pas.
Présence à Super Bannière 94.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
De nouveaux bombardements et appels à évacuer des zones entières du sud Liban ce mardi. Tsahal, l'armée